Carnet de route, une émission proposée par l'ASBL Samarcande. Le carnet de route, une heure d'antenne pour les ados. Bonjour à tous et nous revoilà pour une émission Carnet de route en compagnie aujourd'hui d'Alex. Et je vous rappelle que le Carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui en font la demande de s'exprimer en toute liberté pendant à peu près une heure. Et aujourd'hui, dans le petit studio de Samarcande, j'ai le plaisir d'accueillir Alex, à qui je dis bonjour.
Salut.
Alex, c'est la première fois que l'on fait ce travail ensemble ici à Samarcande. Mmh. On s'est croisés dans les couloirs de la maison.
Ouais.
Et je t'ai proposé de faire une émission comme avec tous les autres jeunes. Et aujourd'hui, toi, tu as accepté, tu te retrouves aujourd'hui en face de moi. Et ma première question avant de te présenter, Alex, ce serait savoir pourquoi tu as eu envie de faire le projet.
Parce que c'est une expérience en plus. Enfin, quand on m'a proposé de faire la radio, j'en avais envie, et voilà.
Et c'est une... Bah, on va voir ça, mais à mon avis, ça va être un sacré moment.
Ouais, j'espère. Hein.
Parce que, Alex, tu as, pour ta présentation, tu as 16 ans. Tu viens de la région bruxelloise, ici tout près, et c'est tout. Et tu vis chez tes parents.
Et c'est tout, oui.
Et tu avais un souhait, parce que ma question première, c'est... Je vous attire dans le studio, et puis vous avez toujours des sujets à me raconter, à partager avec moi, et c'est chaque fois différent. Et aujourd'hui, toi, ton plaisir de parler, c'était pour m'informer de cinéma.
Ouais.
Parce que tu aimes beaucoup le cinéma, et donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est tourner autour de tes intérêts, et de la musique aussi. Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de cinéma. On a partagé, je t'ai dit que j'aimais le cinéma, mais je crois que tu l'aimes plus que moi.
Je suppose qu'on l'aime à la même façon, non?
Parce qu'on a pu échanger quand même sur un cinéma assez différent, hein, je crois. Mm-hmm. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu avais commencé à me parler d'un cinéma assez large.
Ouais.
Et comment est-ce qu'on va commencer, Alex, à parler du cinéma? Du cinéma personnel et impersonnel.
Mmh.
C'était la première chose dont tu m'avais parlé.
Ouais.
Eh bien, on va commencer avec ça.
D'accord.
Il y a du cinéma personnel et du cinéma impersonnel. Et tantôt, j'avais posé la question, qu'est-ce que ça signifie?
Mmh. Ok. Un cinéma personnel, c'est un cinéma qui touche de par sa proximité par rapport au réalisateur. Personnel, c'est donner un peu de soi dans le film. Oui, c'est donner un peu de soi dans le film. C'est y mettre ses émotions, son ressenti. Et puis, il ne faut pas que ce soit trop personnel, parce que sinon, ça en devient très cliché. Mais parce que la vie est cliché déjà en général, et le cinéma, ça sert justement à les détourner. Donc, voilà.
À détourner les clichés?
Ouais.
Pourquoi c'est important de pouvoir le faire, ça?
Parce que ça te permet de changer des choses, en fait, quand tu détournes les clichés. Quand les gens détournent les clichés, tu te dis que ta vie n'est pas si monotone et n'est pas si droite, en fait, et si tracée.
Et un cliché dans la vie, pour avoir un exemple, cite-moi, hein, si tu veux bien.
Un cliché dans la vie, c'est... Ouh là là, tu me poses une question. En fait, le truc, c'est que je trouve les clichés quand je les vois dans les films, en fait. Mais là, quand tu me poses la question de cliché comme ça, j'ai un peu de mal. Donc...
Et le dernier gros cliché, vu au cinéma?
Le dernier gros cliché, c'est les films qui finissent bien. Où tout le monde est content, tout le monde est heureux, où il y a un couple qui se forme et où tout va bien, dans le meilleur des mondes.
Un happy end.
Happy end, voilà, ouais.
Et c'est pas quelque chose d'enviable pour nos vies en général, ça?
Le temps que l'happy end ne devient pas cliché, ça le fait. Mais en fait, là, le truc, c'est que beaucoup d'happy end se ressemblent, en fait. Et voilà, donc à la fin, il faut ou bien tu fais une happy end, mais tu fais tout pour qu'elle soit, je dirais, originale. Ou sinon, t'en fais pas et tu trouves quelque chose. C'est un peu trop facile de se dire que tout va bien, alors que... Tout n'ira pas forcément bien.
Tu préfères peut-être une fin qui est plus ouverte?
Ouais, une fin plus globale. Enfin, tout ne finit pas bien. Et ça, tout le monde le dira. Donc, de montrer que tout finit bien, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Et quand je te demandais un exemple dans la vie, toi, tu te réfugies, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans le cinéma.
Ouais, c'est ça.
Comment tu peux expliquer qu'il existe des clichés dans la vie?
Pourquoi il existe des clichés dans la vie? Parce qu'on en a besoin aussi, peut-être parfois. On a besoin de se rassurer en sachant que tout ce qu'on fait est tracé. Mais bon, moi, j'en ai pas besoin personnellement. Au contraire, je suis bien content de détourner les règles. Donc, Maintenant, j'imagine qu'il y a des gens qui se rassurent en continuant la ligne qu'on leur a tracée et en continuant par ce chemin-là et enchaîner cliché sur cliché.
Parce que c'est plus rassurant, tu crois ?
Mais ça te confronte, c'est moins inconfortable, je dirais, de continuer dans le chemin. Par exemple, ben, c'est tout bête, tu vas à l'école, tu continues à l'école, si jamais tu suis le cliché. On t'envoie à l'école à 6 ans, enfin voilà. Et toi, ben, tu continues après, cliché sur cliché, ou bien tu t'arrêtes et tu te poses la question de savoir ce que tu fais, ou bien tu continues sur cliché jusqu'à quand tu te rends compte que tu n'as fait que ça.
C'est un constat assez dur, je trouve.
C'est dur, mais non, chacun en fait son interprétation. Je pense qu'il y a des gens qui réussissent à vivre pleinement dans le cliché sans être dans le cliché. Enfin, maintenant, moi, j'y arrive pas. Et donc voilà, c'est pour ça que justement, j'ai stoppé un peu ce parcours-là, qui est le parcours scolaire. Parce que j'étais trop dans le cliché, et surtout, ben, je suivais trop, j'étais trop le mouton qui se faisait suivre par le gerbet. Donc voilà.
Et comment tu te situes par rapport à toute cette réflexion justement sur ton environnement ? Où tu en es maintenant ?
Maintenant, pour l'instant, je suis pas encore. J'ai encore quelques. Je suis pas encore tout à fait réconcilié par rapport au projet scolaire et à l'école en général, mais j'apprends à le voir d'une autre manière. Mais je dirais pas que je suis encore totalement en accord avec ce qu'ils font et avec leur ligne de conduite.
Mais tu es plus serein par rapport à cette idée-là.
De retourner à l'école, de...
De t'y intéresser.
De m'y intéresser, enfin ouais, quand t'es au dehors de l'école, c'est plus facile de t'y intéresser que quand tu es dedans.
Est-ce qu'il n'existe pas déjà à ton âge, tu as 16 ans, hein, Alex, mais une école qui s'approche déjà un petit peu de l'univers du cinéma ?
Non, vu que moi j'ai doublé 2 ans déjà, donc je vais recommencer en 3e l'année prochaine. Donc il en existe une, mais c'est pas vraiment du cinéma, c'est plutôt de la photo avant du cinéma. Maintenant ça traite de l'image aussi, mais il y en a pas vraiment qui se rapproche encore. Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Mais l'idée que tu doives refaire par exemple tes 2 années ou être à un niveau pour pouvoir rentrer dans une école qui te corresponde plus.
Ouais.
Est-ce que ça ne te donne pas des...
Non, au contraire, ça me rabaisse, je me dis que j'ai 2 ans à attendre.
Mais est-ce que tu as le choix ?
Pas vraiment, non. Mais pourquoi on donne pas le choix à un ado de faire... Enfin, pourquoi on permet pas à un ado de faire ses choix ? Ça, c'est autre chose.
Plus rapidement, tu veux dire, par rapport à l'école ?
Ben, je suis d'accord que tous les ados ne peuvent pas être posés à 16 ans. Mais je vais pas dire que je suis posé non plus. Enfin, ça serait mentir, mais je sais où je veux aller. Enfin, voilà, ce serait bien qu'on puisse me laisser le droit de le faire.
Être posé, ça veut dire ?
Ben, être posé, c'est savoir où on va, savoir où on veut aller aussi. Et moi, je sais où je veux aller, je sais où je vais pour l'instant. Donc, en cette optique-là, pourquoi me stopper dans mes démarches juste pour quelque chose de purement, je dirais, politique, même s'il n'y a pas que la politique qui joue.
Tu veux dire pour changer le système qui permettrait ce que tu voudrais faire ?
Mais moi, je pense qu'il faut adapter le système à tous les adolescents pourraient adapter leur système à leurs envies et à leur intérêt. Donc, maintenant, ça se fait pas et je pense que c'est difficile à mettre en place aussi. Mais
ce serait un système au cas par cas parce que des jeunes comme toi, c'est pas une critique du tout hein, de toi, mais il n'en existe pas beaucoup qui ont déjà si tôt une envie
non, c'est
si
clair.
Grande.
Et eux, ils restent dans la normalité parce qu'ils en ont besoin. Ils savent pas où aller. Et c'est honorable aussi. Hein,
mais quand tu dis la normalité, que ben, toi, c'est... tu te trouves en dehors de la normalité.
Non, moi, je suis dans ma normalité à moi. Voilà, donc maintenant, la normalité générale, c'est pas la mienne, mais c'est ma normalité à moi.
Et une définition de la normalité, Alex. Après, je t'embête plus. Hein.
Une définition de la normalité, c'est... être quelque part où tu aimes aller déjà pour commencer, quelque part où tu avances, quelque part où tu apprends, et faire des choses qui te plaisent tout en restant et tout en ayant un parcours qui peut t'aider à faire des études après, des études universitaires et tout ça, rester dans la normalité, mais tout en aimant faire cette normalité.
Merci beaucoup de ta participation et ta confiance, Alex. Je vais te proposer... ta première musique, et je vais te demander de la reconnaître et de la présenter aux auditeurs.
Ah ouais, c'est Foo Fighters de Pretenders.
sold for sale. Oh well. The page is out of print. We are not permanent. We're temporary. Temporary. Same old story. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one in your place? You're the pretender. What if I say that I'm never surrender? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one in your place? You're the pretender. What if I say I will never surrender?
C'est fini.
Pas tout à fait, mais c'est
ouais,
pas grave.
Oui, simple, oui.
J'étais surpris. Alex, ici, c'était Foo Fighters, c'est
ouais.
ça Foo Fighters, et le titre...
C'est The Pretenders.
Pretenders. Et tu sais un peu de quoi il parle ?
Je pense que ça me parle d'un combat, du fait que... Maintenant, je comprends pas trop l'anglais, mais de ce que j'en ai vu du clip, en tout cas, c'est quelqu'un qui se prépare à combattre, remet sa guitare, et voilà.
Qui s'apprête à combattre, en remettant sa guitare.
En fait, au début, il s'apprête à combattre, et puis, à la fin, ben, il se bat. Maintenant, comme je te l'ai dit, je comprends pas trop l'anglais. Moi, c'est juste le rythme que j'aime bien, et les solos de guitare aussi, qui sont pas mal, donc,
Tu crois qu'on pourrait comparer la... Oh là là, c'est peut-être... Le fait d'écrire, le fait de réaliser, le fait d'être en soi, quelque chose qui s'apparente à un combat. Avec soi, peut-être, je sais pas.
Ouais, t'es toujours au combat envers toi-même quand t'écris quelque chose, parce que tu te rends compte qu'il faut que tu y mettes du tien. De nouveau, ça revient au cinéma personnel. Il faut que tu y mettes du tien pour que ça intéresse. Donc, il faut combattre envers toi-même pour savoir ce que tu dois mettre, ce que tu dois pas mettre.
Et tu crois que parfois, on combat cette anormalité, le fait de ne pas être dans cette norme et dans ce cliché, comme tu dis, qu'on se dise on est en dehors de quelque chose, on est en dehors de ce qui est la norme.
Je sais pas, honnêtement, ça c'est une question que je me suis jamais posée et qu'à mon avis personne ne doit se poser parce que sinon on n'est pas sorti, donc je sais pas.
Se sentir libre, tu parlais de ça aussi tout à l'heure. Est-ce que cette voie que tu aimerais, que tu choisiras dans tes études et dans la réalisation, c'est aussi un sentiment de liberté ?
Moi c'est clair que j'aimerais être un artiste autodidacte, quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut dans ses films et qui peut émettre ce qu'il veut. Donc oui, c'est être libre, être artiste. Maintenant, est-ce que dans les années qui vont venir, l'artistique va toujours être aussi libre? Ça, j'en suis pas tellement sûr.
Pourquoi ce serait important
d'être libre par l'artistique?
Pourquoi l'art est-il important aux yeux d'un garçon de 16 ans?
Ben l'art c'est important pour tout le monde déjà, donc je pense que tu prends un Pakistanais qui sait pas parler français et un Français qui sait pas parler Pakistanais, tu les fais faire un destin, un dessin, ils se comprennent tout de suite. Enfin, l'art, c'est une langue universelle, donc de ce côté-là, c'est la seule langue universelle qui existe aussi.
Tu as rencontré des amis, tu disais tout à l'heure que tu te sentais à part et que tu n'es pas toujours compris par rapport aux étudiants que tu es à l'école avec toi. Mm-hmm. Mais des gens qui sont aussi très imaginatifs et créatifs.
Non, enfin moi tous les gens que j'ai rencontrés pour l'instant, et c'est pas méchamment que je dis ça, et maintenant c'est peut-être parce que je me suis pas arrêté beaucoup à ce qu'ils sont ou non plus, mais enfin ils m'ont pas paru si imaginatifs que ça. C'était plus des gens qui vivaient le moment présent et qui se cassaient pas la tête et qui s'amusaient. C'est aussi une autre c'est tout autant honorable, c'est tout autant une bonne chose.
Ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure, hein. C'est de choisir ensemble un film le soir, un samedi soir, avec ton cousin ou ton frère.
Ouais.
Et c'est de se décider, mettre en commun nos idées et nos choix pour aller voir et se décider à aller voir un film.
Ouais.
Alors si tu te trouves avec ton frère, par exemple, et que vous vous décidez un samedi soir à aller voir un film, comment vous allez faire pour... Est-ce que vous êtes différent et comment vous allez vous mettre d'accord?
Il faut avoir les arguments, déjà, c'est clair. Surtout avec un grand frère, il faut vraiment... bien l'ennuyer, il faut être honnête, il faut l'ennuyer pour pouvoir regarder ce qu'on veut. Et puis, il faut aussi lui faire croire qu'il y aura beaucoup d'action dans un film pour... ensuite, il est dégoûté, mais tu lui dis, ouais, il va avoir de l'action et tout, il va y aller. Donc, l'argument de l'action et de l'adrénaline, je pense que c'est la meilleure chose à dire à mon frère pour qu'il aille voir un film.
Et le dernier film que tu as vu avec lui, c'était lequel ?
Le dernier film que j'ai vu avec lui, c'était... Au cinéma ou pas au cinéma ?
Au cinéma.
C'était Die Frame, c'est un film allemand qui parlait d'une femme qui quitte la Turquie et son mari qui la battait pour rejoindre sa famille musulmane, musulmane qui va pas forcément super bien l'accueillir. Et tout le sujet du film tourne autour de ça, c'est l'accueil de la famille qui est vraiment dans l'islam et qui défend tous ces dogmes vraiment avec passion et envie. Et voilà, c'est à peu près tout le message du film et toute l'absurdité que parfois peut avoir la religion.
Toi-même, Alex, parfois, tu écris.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu écris ?
J'écris des scénarios. J'écris des scénarios, des poésies, ça m'arrive, des chansons. Même ces chansons, je suis un peu moins, et la poésie aussi, parce que je suis pas vraiment dans le rythme et surtout dans les rimes.
Tu n'es pas encore assez content de toi quand tu...
Dans les poésies, la chanson en tout cas, non. Je suis très perfectionniste aussi, mais non, pas tellement content.
Et pourquoi te mets-tu en scène souvent dans tes textes sous la forme d'un joueur, un joueur de poker, un joueur de foot ?
J'imagine que j'aime jouer, J'aime jouer, et j'aime parfois jouer trop loin, j'ai envie de vivre aussi, donc j'aime jouer, ouais.
Tu aimes vivre aussi, c'est ça que tu dis ? J'ai compris ça.
À la fin, oui, en fait, j'ai tellement pas vécu durant une année ou deux que maintenant, j'ai arrêté d'arrêter de vivre, c'est un peu...
Sur les jeux ?
Sur les jeux, c'est-à-dire...
Ah, je croyais que tu t'étais tellement imprégné de ces activités-là.
Non, c'était purement... À un moment, je me suis vraiment arrêté de... J'arrêtais de dialoguer avec les autres, j'arrêtais de construire des relations, d'élargir mon cercle d'amis, et ça a fait que je me suis très vite retiré de la vie
sociale, tu veux dire.
La vie sociale, et c'est aussi à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à concevoir mon imagination et à le nourrir et surtout le faire grandir.
Et toutes ces rencontres, tout ce lien social, est-ce qu'il n'était pas sur papier à ce moment-là ? C'est pas ça que tu voulais faire ?
C'est possible que je me suis inventé des amis, que je me suis inventé des personnes, des rencontres à travers ces textes, mais c'est pas plus mal vu que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Et c'est un peu ma cure, en fait.
C'est un passage dans ta vie, quoi.
C'est pas terminé, c'est toujours d'actualité, c'est un passage et ça sera un passage encore longtemps, je pense.
Mais comment ça se fait qu'à un moment tu t'es rendu compte, il y a eu comme un déclic où tu te dis, je suis en retrait par rapport aux autres ?
Mais à un moment, il y a toujours la réalité qui te rattrape, en fait. Donc, à ce moment-là, t'as deux choix. Ou bien tu continues à doigler la face et t'avances plus. Ou bien tu rentres dans cette réalité et tu l'affrontes. Et moi, c'est un peu de par un projet que je me suis senti d'abord obligé de faire, mais qui, et puis, m'a beaucoup aidé et m'aide encore, que j'ai affronté cette réalité.
Et le projet, c'était ?
C'est un projet d'accrochage scolaire qui le seuil. Donc,
et
voilà.
Dont tu es satisfait, hein, et qui t'aide.
Ouais, mais au début, on n'accepte pas trop, mais à la force, il y a tellement de confiance. Les éducateurs ont une confiance aveugle en toi que tu ne peux qu'avoir confiance en eux, quoi. C'est vraiment un très beau projet et je m'y retrouve et j'aime beaucoup venir tous les jours ici pour apprendre, échanger et m'amuser aussi.
Est-ce que ça recrée aussi un lien social?
Bah oui, c'est là que j'ai créé tout mon lien social. Enfin, ouais, j'avais déjà quelques amis avant, mais je les avais délaissés. Mais c'est vraiment ici que j'ai commencé à me reconstruire, à reconstruire des choses, à recommencer à dialoguer, à discuter, et voilà.
Et tout en étant attentif à ta spécificité, hein, je crois.
Mmh. Ouais, c'est ça. Ils sont pas contraignants ici, c'est ce qui est bien. Et au contraire, ils te suivent dans tes choix. Et c'est ce que je voulais, justement. Ce côté-là, j'ai été vraiment bien servi. C'était bien.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés aussi. Hein.
Ouais, c'est dans ce cadre-là. Non, bâtiment d'au-dessus, en dessous, voilà, ouais.
Alex, pour revenir sur ta créativité, j'étais fort étonné parce que il y a 97 projets que tu as mis en route, mais qui ne sont pas tous aboutis.
Il y a 97 projets qui pourraient être. Il y a 96 projets qui pourraient être mis en route. Il y a un projet qui a été mis en route.
Et ces projets, ce sont des idées de scénario plutôt.
C'est des idées, oui. En fait, ça a été nouveau dans un texte que j'ai trouvé tous ces films. C'était un texte que j'avais écrit, mais je restais très dans le ras des pâquerettes avec ces films. C'était vraiment. Enfin voilà, je les ai pas écrits, mais il y a des résumés, il y a des. Donc ça pourrait être écrit, oui, mais voilà.
En tout cas, ça reste dans ta tête et c'est comme une boîte à idées que tu vas toujours garder.
Ouais, c'est même plus que ça reste dans ma tête, ça reste dans un document qui sur Word qui est enregistré. Donc, enfin voilà, c'est vraiment, c'est ouais, c'est pourquoi pas. Enfin, dans 2-3 ans, j'ai écrit mon premier scénario, j'ai envie de me lancer vraiment dans la réalisation. Ben pourquoi pas chipper une idée là-dedans, parce que je trouve qu'elle est très bonne quand même.
Et l'histoire aboutit, en tout cas plus aboutie que les autres. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est?
Ouais, enfin, c'est l'histoire d'un magicien, de l'épopée d'un magicien au XXIe siècle qui invente un tour, enfin, très dangereux et qui continue à le faire parce qu'il se pousse à aller plus loin. Et c'est, voilà, c'est un peu une critique à cette manière qu'ont les gens parfois de se faire du mal pour avancer.
Et il va finir par arrêter ses tours parce que, pourquoi?
La réalité, c'est nouveau, cette histoire de réalité qui nous rattrape un jour, C'est obligé qu'un jour la réalité nous rattrape, sauf quand tu t'es fait arrêter avant que la réalité t'arrête par autre chose. Voilà, mais c'est de nouveau une histoire de réalité, une notion de réalisme et du fait que tu peux pas rester dans le rêve toute ta vie, ou en tout cas une bonne partie.
Et il y a aussi la douleur, hein.
Ouais, la douleur mentale, parce que le fait qu'il fasse des tours dangereux, ça va apporter des problèmes dans sa vie. Mais aussi la douleur, physique. Vu que le tour, le tour est un peu dangereux.
Tu peux l'expliquer?
Franck Clair, c'est quelqu'un qui prend une balle magique dans sa main. Et quelqu'un d'autre tire sur cette balle magique. Et la balle reste toujours au creux de sa main. Mais en fait, pas du tout. Mais ça, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, en fait. Mais c'est un peu aussi difficile à imaginer, je suppose. Mais c'est vraiment, en fait, il se trouve le doigt à chaque fois, quasi, donc voilà.
Et je te posais la question tantôt, Alex, c'est plutôt du côté personnel ou impersonnel? Tu sais, tout au début, là, tu me parlais des films.
C'est personnel, tout à fait. Moi, combien de fois je me suis pas fait du mal pour avancer, et je me suis rendu compte qu'après, ça ne servait pas à grand-chose, et c'est pour ça que cette idée m'est venue, et quand j'ai relu, en fait, mon texte, je me suis dit qu'il serait bon d'en faire un film, en fait.
Et tantôt, dans la petite préparation que l'on a faite, hein, tu m'avais dit, c'est terrible, c'est de se dire que on a souffert pour avancer, mais qu'après, on se rend compte qu'on n'était pas obligé de souffrir.
Oui, c'est ce qui est beau aussi, j'ai envie de dire, c'est le fait de se rendre compte qu'on a souffert, mais qu'on est toujours là, et qu'on a souffert, même si on n'aurait pas dû souffrir, mais qu'on est toujours là, qu'on est toujours, qu'on est plus solide, on est plus solide, on est prêt à encore souffrir, et cette fois souffrir pour quelque chose souffrir pour quelque chose où il faut souffrir, enfin voilà, au lieu de souffrir pour quelque chose où il ne faut pas souffrir. Mais t'es plus fort quand tu souffres pour quelque chose de bête, j'ai envie de dire. Tu deviens plus fort, et chaque souffrance te rend plus fort de toute façon.
Chaque souffrance te rend
plus fort.
Plus fort. Alex, je vais te proposer une deuxième petite musique.
Mm-hmm.
Est-ce que tu es d'accord?
Ouais.
Et je vais te demander, comme tout à l'heure, c'est d'essayer de... tu vas la reconnaître. Hein.
Ouais, c'est Pixies, Where Do You Mind.
Et nous voilà dans le petit studio de Saint-Marcand en compagnie d'Alex. J'étais surpris, Alex, parce que je connais pas la musique et ça s'est arrêté. Je pensais, puis ça n'était pas. Ouais. Ici, on vient d'écouter, c'était Pixies.
Ouais.
Et alors, tu ne l'as pas choisi pour rien, parce que c'était pour parler d'un film.
Ouais, c'est un film, c'est Fight Club, un film de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton.
Un petit résumé?
En clair, c'est quelqu'un qui, de par un voyage, va rencontrer une personne qui va un peu
l'aider.
Ouais, l'aider, mais à la fois pas l'aider. Enfin, l'aider en profitant de lui. Non. Et je vais pas dévoiler la fin, mais en clair, c'est un peu aussi le montrer que l'homme a besoin de son double. Mais non, j'irai pas plus loin. Enfin, voyez le film, mais vous comprendrez.
Et qu'est-ce que ça peut représenter, ça, hein? Parce que l'idée est intéressante pour vous. Mm-hmm. Enfin, pour vous. Je ne sais pas ce que vous en faites à 16 ans de cette idée de double.
Ben moi, mon double, c'est mon imagination, pour moi. Donc voilà, on a besoin d'un double. Il y en a un. Enfin, un double, ça peut être aussi quelque chose quelque chose auquel on s'attache, comme je sais pas. Ça me paraît tout bête et c'est peut-être caricatural, mais la cigarette, ça peut être son double. Comme une personne peut être son double aussi, une personne qu'on aime, on se retrouve dans ses discours, ou voilà, ça peut être aussi une personne, ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être vraiment. Il faut un double en tout cas, quelque chose où on peut s'identifier, où on sait se retrouver.
La violence.
La violence, un double maléfique alors, hein. Plutôt, mais ouais, je suppose qu'il y en a des qui se trouvent dans la violence. Moi, personnellement, non, mais maintenant, ça doit exister, je suppose.
Ton double, il s'appelle comment?
Mon double, il s'appelle Alexandre.
Merci, Alex.
De rien.
Donc ça, c'était Fight Club. Mm-hmm. Tout à l'heure, je t'ai demandé de me parler des 5 films que tu avais préférés.
Ouais.
Tu t'en souviens. Alors je m'y perds un peu parce que il y avait des films que tu avais préférés, puis tu avais des films. Donc on va se mélanger, on va essayer de revenir au hasard. Il y avait Vicky Cristina Barcelona qui est
de Woody Allen. Ouais.
Ça fait partie de ta sélection des 5. Hein.
Ouais, vraiment. C'est vraiment un des films vraiment le plus dérisoire sur les couples que j'ai connu. C'est vraiment moi qui a un œil aussi critique sur les relations amoureuses et tout ça, je me suis vraiment retrouvé, vu que c'est un visionnaire, il ne s'est pas retrouvé en lui, vu que c'est vraiment, il a vraiment une vision que, même moi, avec beaucoup de réflexions, j'aurais pas eu. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle vision et c'est vraiment un bon film.
Et quand tu dis que toi, tu as une vision particulière de la relation amoureuse.
Ben, pour moi, j'ai toujours dit, l'amour n'existe pas, le coup de foudre existe. Donc voilà, moi, l'amour n'existe pas, sauf l'amour maternel et paternel, mais ça, c'est autre chose. L'amour de ses parents, de sa famille, ça, c'est... Ta mère a donné la vie, donc ça, c'est autre chose. C'est l'amour, c'est l'osmose, même, je dirais, presque, vu que tu étais dans son ventre, vu que tu... Mais c'est des gens que tu connais depuis que tu es tout petit, donc de ce côté-là, c'est pas le vrai... C'est vraiment l'amour, mais c'est pas l'amour qu'on définit tous aujourd'hui avec une femme, un homme et tout ça, enfin voilà.
Et dans ce film, Vicky Cristina Barcelona, est-ce que ça parle de relations et de passion amoureuse, je crois, hein?
Ouais, et justement, ça montre surtout que ça détruit les clichés de l'amour, comme quoi il faut être deux, comme quoi il faut faire des compromis, des choses comme ça. Ça descend tout.
Enfin, mais ça reste compliqué, hein.
Ça reste compliqué. Et à la fin, ça se finit même. Le couple à trois, ils se séparent, ils sont plus que deux. Et quand ils sont plus que deux, ben ça a pas fonctionné non plus. Donc pour finir, ils sont tous séparés. Et ça a montré que dès qu'en fait, ben le personnage joué par Scarlett Johansson dans le film a quitté le couple Bardem et Cruz, et ben le couple Bardem et Cruz sont séparés aussi. Et ben parce qu'en fait, ils se sont rendu compte que Scarlett c'était le bouclier entre les deux. Donc faut toujours un bouclier dans une relation. C'est pour ça que, enfin, Woody Allen pense à une relation à trois.
Il faut toujours un bouclier dans une relation.
Mmh.
Développe.
Un bouclier, enfin, personne peut aimer personne, enfin, personne peut aimer tout chez une personne, enfin, il y a toujours quelque chose qui va déplaire, et cette chose qui va déplaire peut prendre une grosse ampleur, ou peut prendre, enfin, ça peut être un tsunami dans un verre d'eau aussi, enfin, mais il y a toujours quelque chose qui ne plaît pas chez quelqu'un, et et je pense que le mieux c'est de le cacher, en fait.
Ou ce sont des aménagements, on accepte ce que l'on ne comprend pas, ou ce que l'on accepte moins chez l'autre.
Je pense jamais qu'on accepte, enfin, on conçoit mais on n'accepte pas, je pense. Je pense que ça reste difficile parfois, et je trouve même que quand il y a quelque chose qui va pas chez l'autre, dès qu'il y a une dispute sur un sujet autre, cette chose qui va pas revient tout le temps, donc.
Je suis certain,
hein. Mm-hmm.
C'est systématique.
Systématique, je sais pas, moi, les couples que j'ai connus, que ce soit des jeunes ou des adultes, enfin, c'est pas le bonheur tous les jours, il faut être clair. Dans un couple, t'as pas un bonheur tous les jours, et je pense que ce troisième élément, ben, ça permet de canaliser aussi le fait que deux personnes se voient souvent. Parce que quand t'es en couple, ben, tu es perpétuellement quasi avec cette personne. Et avoir une troisième personne, c'est aussi avoir une troisième, une troisième vision et une troisième une troisième perpétuelle rencontre. Donc voilà.
Par rapport au film, tu disais l'adulte par rapport à cette notion de couple et du bonheur à trois.
Ouais.
Tu disais l'adulte quand il va voir le film, il va être plus froid par rapport à cette thématique-là.
Oui, parce que ben, lui, c'est pour lui, c'est clair, c'est un traditionnaliste, c'est un. Je dirais même qu'il est de droite dans sa démarche. Enfin, maintenant, on va parler de politique ni rien, mais il est rouge. C'est un couple, c'est deux personnes, un homme, une femme, et voilà, ça va pas plus loin. Après, c'est construire un ménage avec des enfants. Et il veut pas entendre parler de couple à trois, ou même de couple homosexuel, ou peu importe.
C'est le cliché dont tu parlais, ça, cette idée de la famille normative.
C'est le cliché, justement. Est-ce qu'un enfant ne peut pas vivre avec trois personnes, avec trois parents? Est-ce qu'un enfant ne peut pas vivre avec un couple homosexuel? Ça, c'est une question, et on le sera jamais, vu que personne ne laisse vraiment le choix à des gens de le faire parfois, donc
ça arrive, hein.
Ça arrive, et c'est bien justement, et de ce que j'en ai entendu, l'enfant devient pareil. Enfin, il a juste une petite gêne peut-être à son adolescence, mais après, enfin, il faut accepter ça et il faut pas en avoir honte non plus.
Merci, hein, Alex, de ton expérience.
Expérience, ouais, plus ouais, ouais.
De ton expérience de vie, de ce que tu apportes au projet et avec tes idées. C'est ça que je veux dire.
Mmh.
Et quand, pour revenir sur Woody Allen, tu me disais que dans ses films, il critiquait. Il pouvait se permettre de dire beaucoup de choses et d'émettre des critiques sur la société,
ouais,
mais sans qu'on s'en rende compte.
On s'en rend compte après deux ou trois visions, en fait. Si jamais tu n'arrêtes pas de le regarder, tu t'en rends compte un moment. Mais la première vision, tu ne te rends jamais compte. Il y a des choses qui met en évidence lui-même, donc tu es obligé de les voir, vu qu'il fait exprès de les mettre en évidence, mais... Il y en a d'autres où si tu te réfléchis pas trop, tu es juste un pro de marée, bah, tu verras que... Enfin, tu ne verras pas, justement. Qu'il essaie de critiquer quelque chose, qu'il essaie de critiquer un système, qu'il essaie de critiquer une idéologie, tout ça.
Tu auras la possibilité de le visionner plusieurs fois et d'avoir plusieurs grilles de lecture.
Mais c'est toujours comme ça dans les bons films, en fait. À chaque vision, tu découvres quelque chose. Je m'en souviens d'Orange Mécanique aussi, mais ça c'est un autre genre déjà, mais j'ai dû le voir 10 fois pour comprendre, et encore je suis pas sûr d'avoir tout compris. Et ça veut pas dire que je suis bête, ça veut pas dire que j'arrive pas à comprendre, ça veut juste dire que ce mec c'est un génie et qu'il faut vraiment rentrer dans son univers, dans son parcours aussi, vu que le parcours d'un homme résume ce qu'il fait. Enfin, c'est ça, je le dis, et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Mais voilà, et il faut vraiment bien rentrer dans cette vision des choses, et pour ça, il faut revoir le film plein de fois pour pouvoir comprendre son point de vue, son avis, et voilà, son avis.
Il y avait aussi cette scène dans Vicky...
Cristina Barcelona.
Ouais, où... c'était Penélope Cruz, je crois, fait de la peinture.
Ouais, voilà.
Et tu m'as parlé du geste de peindre.
De peindre en n'ayant rien à foutre, quasi. Enfin, c'est une démarche nonchalante. Elle prend un pinceau et elle commence à secouer le pinceau. Il y a des gouttes de peinture qui vont partout et ça montre que l'art, ben, c'est l'abstrait.
Ça peut
l'être, mais moi j'aime beaucoup l'art abstrait, en tout cas. J'aime pas les choses concrètes, ou bien j'aime les choses abstraites qui deviennent concrètes.
Je vais dire une bêtise, mais est-ce que toi t'es une petite abstraction?
J'ai une petite abstraction. Peu de personnes réussissent à me comprendre, mais non, est-ce que ça fait que je suis une abstraction ou pas? Voilà.
C'est en toute sympathie, hein, c'est pas du
tout. Oui, non, oui, oui, oui.
Merci beaucoup. Encore une fois, Alex, je dis trois fois merci.
Ouais, ouais.
Je vois le temps qui file, Alex, à une vitesse incroyable. Mais je voudrais quand même te faire écouter une troisième musique, si tu veux bien.
Ouais.
Et ici, ben, comme tout à l'heure, hein, qu'est-ce que c'est ?
C'est Radiohead, King Step.
titre de cette musique?
C'est 15 steps.
Est-ce qu'elle correspond à un film ou bien c'est...
Ouais, c'est un film, mais le film en lui-même, il est pas bon. On va pas se cacher. Enfin, ouais. C'est okay. Twilight. Son...
Ah oui, c'est ça.
Le film en lui-même, il est pas bon, mais la musique est bonne.
Pourquoi, tiens, ce film, il n'est pas bon? Enfin, tu penses qu'il n'est pas bon?
Cliché, 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 cliché. Tout simplement, enfin, il n'y a pas aller plus loin. Maintenant, c'est pour ça que ça plaît autant aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de clichés et les, enfin, et que ça, on revient à cette même question de se rassurer dans le cliché et tout, donc, cliché.
Et ça vous concerne davantage, hein, c'est plutôt des relations.
Ouais, relations amoureuses, d'adolescentes, avec des parties pris, enfin, ça m'intéresse pas trop, ça. Je trouve ça plat.
Alex, revenons vers des choses qui t'intéressent plus. Mm-hmm. Il y avait un autre film de Woody Allen qui s'appelait Match Point.
Match Point, ouais.
Et dans ce film, tu disais, on prend bien et mal la mort, dans ce film-là.
Ouais, ouais, enfin, ça maintenant, c'est une interprétation purement personnelle, mais quand tu vois qu'à la fin, non, est-ce que je dis la fin ou pas?
Si, tu peux.
Ouais, ben, bah, à la fin, quand tu vois que le garçon tue, ben, bah, la femme qui est enceinte, pour choisir la femme qui est riche, je dis que dans un sens, ben, bah, c'est bien, vu que l'argent, c'est beaucoup de nos jours, et même un visionnaire, un philosophe des temps modernes ne peut pas construire ses raisonnements sans l'argent. Vu que l'argent a pris une grande place, une grosse place maintenant. Et dans un sens, il choisit l'argent. Mais qu'est-ce qui est mieux maintenant de nos jours pour quelqu'un qui veut vivre sa vie? Construire une famille ou construire une deuxième famille avec de l'argent? Enfin, construire une famille avec amour, avec tendresse, avec émotion, construire une vie avec de l'argent, avec de la luxure, avec de la possession, du matériel, et de l'amour dans le sens de l'argent aussi. Et voilà pourquoi on peut prendre ça bien ou mal. Maintenant, moi, la première vision, je l'ai plus pris mal que bien, mais ça m'a choqué d'ailleurs, mais enfin bon. Mais, enfin, c'est vraiment, 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 c'est vraiment une fin à interprétation multiple, donc, on sait pas où trop se placer. Moi, je me suis placé après 3 visions, mais avant, je savais pas où me placer non plus, donc, voilà.
C'est le genre de film qui est différent du happy end, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand la fin est totalement fermée, qu'elle ne donne qu'une seule interprétation. Ici, c'est très ouvert et en le revisionnant, tu imagines d'autres choses, c'est ça.
Mais en soi, ça peut être une happy end. C'est ce qui fait la beauté du film, en fait. Tu te dis qu'après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être s'acheter une piscine, il va peut-être s'acheter une villa, il va peut-être avoir 3 masseuses personnelles dans sa maison, il va peut-être faire des voyages toute sa vie. Donc en soi, ça peut être une happy end, mais... Est-ce que c'en est une vraiment? Est-ce que l'argent peut remplacer l'amour? C'est toute la question du film, je crois.
Pourquoi m'avais-tu parlé de cette actrice blonde, très belle, Scarlett Johansson, c'est ça?
Enfin, c'est tout simplement parce qu'elle en impose déjà pour commencer. Elle est charismatique. Il faut pas se leurrer. Moi, voilà, c'est une espèce de fantasme. Enfin voilà, c'est un fantasme, tout comme Louise Bourgoin, des choses comme ça. C'est un fantasme, et puis elle joue pas si mal encore.
C'est quoi un fantasme?
Un fantasme, c'est quelque chose que tu. Quelque chose que tu trouves beau, quelque chose qui te fascine.
Une icône?
Non, c'est pas une icône, enfin, c'est un fantasme. Mais voilà, c'est juste un fantasme, et. Enfin, pour aller plus loin, mais maintenant c'est purement artistique, mais un fantasme, c'est quelque chose qui te prend la tête aussi. Elle m'a pris la tête de nombreuses fois, et si je dis pas, enfin, on va peut-être, je veux pas passer pour un pervers ou quoi, hein, mais un fantasme, c'est une idéologie aussi, c'est un dogme, et voilà, c'est un fantasme.
Pourquoi tu n'as pas aimé un film qui s'appelait Antéchrist?
C'est pas que j'ai pas aimé, en fait, c'est que c'est un peu trop cru pour moi encore, et c'est le premier film où j'ai eu une certaine réticence, en fait, dans le sens où c'est même pas une réticence de divergence de point de vue, une réticence de désintérêt. C'est vraiment une réticence purement. Il y a des choses qu'on peut pas montrer à tout. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas voir plutôt. Et moi, pour l'instant, je pouvais pas voir Antichrist.
C'est la mort d'un enfant, c'est ça?
Aussi. Non, au début, au contraire, c'est plutôt vers la fin, quand la femme se coupe le clitoris, des trucs comme ça. C'est vraiment ça qui m'a vraiment. C'est vraiment des choses qui m'ont
choqué.
Qui m'ont choqué carrément. Ce film m'a m'a détruit mon week-end, honnêtement. J'en ai pas dormi. Pas dormi parce que ça me faisait pas parce que ça me faisait peur ni rien. Mais c'est parce que c'est sujet à beaucoup de discussions déjà pour commencer. Et ensuite, ben, c'est tellement dépressif comme film que ça détruit le cerveau quasiment. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Van Trier était en dépression quand il a fait ce film.
Je ne sais pas.
Ben, voilà, c'est une petite anecdote. C'était sa cure en fait. Il mettait toute la dépression dans le film en fait. Donc,
Et pourquoi la jeune fille blonde ne tournerait pas dans ses films à lui de Scarlett?
Parce que c'est un fantasme justement, tu vois. Et me dire qu'elle tourne dans un film pareil, ben, je pense que ce serait plus un fantasme après en fait. Tout simplement, c'est une idéologie et l'idéologie, t'as pas envie qu'on la détruise.
Donc plus tard, je t'avais posé, on va revenir sur le fait que je t'avais posé la question, je crois que tu m'as répondu tout à l'heure, hein. Alex, je passe du coq à l'âne un peu, mais tu partages pas beaucoup ta passion avec les autres, hein. C'est ce que tu me disais.
Avec beaucoup d'adultes en tout cas, pas avec beaucoup de jeunes.
Et ta passion du cinéma en général?
Ouais, je la partage, ça la partage à beaucoup de monde, mais le truc c'est que dans mon cercle de connaissances, il y a pas tellement de gens qui ont matière, enfin c'est un peu réducteur de dire ça, mais il y a pas beaucoup de gens qui ont matière à discuter sur le cinéma vu qu'ils s'y intéressent pas, ou quand ils regardent des films, c'est des films que je définis comme sans, pas nul vu qu'aucun film n'est nul en soi, mais comme sans intérêt.
Mais tu pourras aussi échanger sur ce que eux, sur ce qu'ils aiment. Peut-être pas le cinéma, mais autre chose.
J'essaie de m'intéresser le plus possible à ce que les gens aiment, mais c'est pas forcément ce que j'aime, donc c'est un peu difficile de discuter sur ça. Donc je comprends tout à fait les gens qui n'arrivent pas à discuter de cinéma avec moi quand ils aiment pas le cinéma. En même temps, moi, je comprends pas trop comment on ne peut pas aimer le cinéma, en fait. C'est plutôt ça que... Enfin, maintenant, voilà. Enfin...
Tu as une expérience sur un plateau de tournage, hein.
Oui.
C'était quand?
C'était il y a 2 semaines, mercredi il y a 2 semaines.
Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, enfin, en fait, c'est très marrant parce qu'en fait, t'as cette porte entre le plateau de tournage et dehors en fait. Pardon. Et dehors et quand tu rentres dans une bulle, dans une sphère, tu vois qu'il y a du sérieux, mais tu vois que c'est un monde différent. C'est l'imagination, le monde de l'imagination, le monde différent. Et puis ça te donne des frissons quand tu vois la caméra, quand tu vois les gens arriver sur le plateau en train de... Moi c'était une pub, c'était qu'une pub, mais en même temps c'était une pub, enfin, où tu voyais les gens accrocher des photos, tu vois que ça prenait forme, c'était l'abstrait justement, ce que j'aimais beaucoup, l'abstrait qui devenait concret, les photos qui faisaient que ça, qu'à la fin ça devient l'Europe, c'est, bon, voilà, enfin. Et puis même l'ambiance, le fait là-bas, t'as les costumiers, t'as les trucs pour manger. Là, c'est le truc sérieux avec la caméra. Ici, on rigole plus. Là-bas, Sébastien Petit, qui était réalisateur de la pub, c'était marrant comme il changeait de coq à l'âne quand il arrivait devant la caméra. Il était sérieux, mais à la fois marrant. Mais une fois qu'il était derrière la caméra, qu'il était vraiment chez les costumiers, dans les tables de déjeuner et tout ça, c'était un autre homme, et c'est vraiment marrant de voir le contraste de tout ça. Et, enfin, c'était et vraiment...
Ça me fait penser aux deux personnalités, là, tout à l'heure, au début. Mm-hmm. Quand on disait qu'en soi, on pouvait être deux, il y avait un double.
Oui, oui, le double, c'est ça, oui.
Mm-hmm. Un peu.
Un peu, oui, mais maintenant, oui, c'est ça. Ouais, c'est un double.
Et tu l'as rencontré, t'as pu discuter un peu avec lui?
Ouais, j'ai discuté, oui. De son parcours, de ce qu'il a fait pour en arriver là. On a discuté de cinéma aussi, purement cinéma. On a discuté de La vie est belle. Enfin, on va pas rentrer dans... C'est un film...
La vie est belle, là.
La vie est belle, là, de Lobel Benigni.
Avec Benigni.
Ouais, et avec Benigni aussi. Qui est un très bon film. Que je devrais revoir, d'ailleurs. Mais en fait, moi, non, je vais pas rentrer dans la critique de ce film, parce que ça n'en est pas sorti. Mais voilà, on a discuté, et c'était très intense, parce qu'en fait, il était très accessible quand le gars... Il était vraiment disponible, il se prenait pas la tête, il était normal en fait, tout simplement, et c'est ce qui était bien, quelqu'un qui en soi une réussite dans un métier si difficile qu'est le cinéma, qu'est le réalisateur, voilà, et voir qu'il est aussi accessible, aussi disponible, et qu'il a gardé les notions de la réalité, qui est vraiment encore dans la réalité justement, dans cette notion de réalité, c'est magnifique.
Mais la publicité, c'est pas un peu plus réel que...
Enfin, il a fait des films aussi.
Je crois que je dis une bêtise.
Il a fait des films aussi, donc mais la pub, non, c'est pas plus réel parce qu'en soi.
Au contraire, je crois.
Parce qu'en soi, ben les pubs, il y en a beaucoup, oui, mais maintenant il faut essayer de trouver quelque chose qui sera pas comme toutes les pubs. Il y en a tellement justement que c'est difficile de sortir de ces clichés là.
Mais moi, j'y comprends plus rien parce que la pub, c'est quand même vendre une sorte de.
De produit, oui.
Du rêve.
Exactement. Exactement, oui.
On fera un travail sur la publicité.
Ouais.
Il y avait deux petites choses avant de se quitter, Alex.
Trois.
La première, c'est les films, c'est la fainéantise des livres.
Ouais. Ah, il faut que je m'explique. Tout simplement, je me suis rendu compte de par mon expérience personnelle. D'abord, je lisais des livres, beaucoup de livres. Puis un jour, j'en ai eu marre de lire des livres. Et les livres, déjà, en soi, pour résumer, c'est raconter des histoires aussi. Mais ça raconte des histoires avec plus d'action. Tu lis, en même temps, tu imagines. Tandis que quand tu lire et imaginer, c'est déjà deux choses compliquées pour quelqu'un, pour des personnes. Moi, au début, j'ai eu du mal de lire et de m'imaginer la scène. Tandis qu'au cinéma, la scène, t'as pas d'imaginer, on te la montre. Voilà pourquoi c'est un peu la fainéantise du livre, le cinéma.
En perdant des gens, faut pas se perdre soi-même.
Ça, c'est suite à une discussion qu'on a eue là, sur la ville antique grecque, là, qui est perdue dans la montagne. Ouais, voilà. Et en soi, moi, j'entends par là que si tu perds quelqu'un, tu dois pas te perdre, tout simplement. Enfin, t'as une vie, toi aussi. Les personnes qui partent ont vécu leur vie, sauf peut-être des cas extrêmes, mais ceux qui partent généralement ont vécu leur vie, et pourquoi ne pas vivre la tienne en gardant le souvenir d'eux, ça je dis pas, mais il faut vivre la tienne quand même.
Et la dernière chose, merci, parce que je me rappelais plus, mais c'était par rapport à une histoire personnelle que tu y répondais. Et la troisième chose, je la lis, c'est... que tu te poses pas mal de questions sur la mort, tu me disais ça tantôt. Mais qu'en même temps, la mort pour toi, c'était le truc le plus abstrait.
Oui, je peux demander à tout le monde. Personne ne sera de faire une interprétation de la mort. Enfin, on essaye d'en faire de par les religions, les sectes aussi, qui parfois imaginent des choses après la mort, des choses comme ça, mais tu peux pas te faire quelque chose, tu peux pas te vraiment. De manière véridique et de manière scientifique, te faire une vision de la mort. Même les scientifiques ne savent pas te dire ce qu'il y a après la mort. Enfin, ça, c'est gros quand tu te dis ça. Scientifiques, eux, qui ont tellement de connaissances, eux, qui découvrent tout, ils ne savent pas te découvrir ce qu'il y a après la mort.
Merci beaucoup, de Alex, rien. Pour ce partage. J'espère que tu es content du projet, du travail qu'on a réalisé aujourd'hui. Et puis, comme à tous les jeunes, je vais te laisser dire un message à qui tu veux.
Je remercie Nils, il se reconnaîtra, ma mère, mon père, Seuil aussi, Rosalie, Harald, Anan, Yannick, Orlando, je remercie Ruben aussi, Ruben ainsi que tous les gens du collectif aussi, je remercie Kylian, Christelle et voilà.
Et moi je te remercie
Et je te remercie aussi,
merci
j'ai failli t'oublier.
Moi, je te remercie mille fois d'avoir accepté de faire ce projet. Et puis, merci de tes belles idées. Merci, merci, merci d'être là.
Okay.
Et bonne route à toi, Alex.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Two.